Voilà, voilà. Bonjour à tous. On va parler de quoi aujourd'hui ? Bah, je sais pas. Vu l'image ? Eh oui, aujourd'hui, à la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Je vous propose de lire dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 11, que tu peux afficher. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toutes les maisons où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme si je parlais en anglais. Alors là, ce serait... Sorry. Selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu venu de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ?» Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Amen. On ne peut pas vous le cacher, ce texte de ce matin nous parle effectivement de la Pentecôte. Nous sommes donc à la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte est aussi appelée fête des semaines ou fête des moissons dans l'Ancien Testament. Elle avait lieu 7 semaines avant la grande fête juive de Pâques qui célèbre la sortie du pays de l'esclavage d'Égypte pour aller vers le pays de Canaan que Dieu a promis au peuple hébreu. On trouve ce récit dans le livre des Lévitiques. 7 semaines après la grande fête juive de Pâques. 7 semaines après la fête juive de Pâques. 7 fois 7 égale 49. C'est exact. Et pour nous, la Pentecôte, c'est 50 jours avant, après Pâques. Coïncidence ? Peut-être. Pour nous, la Pentecôte est le souvenir de la venue du Saint-Esprit, descendant sur ses disciples. 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Quel est le sens de cette fête des moissons pour les Juifs ? C'est à la fois un temps de reconnaissance et un temps d'espérance. On restera sur ce diapo qui parle de reconnaissance et d'espérance. Reconnaissance pour les premiers fruits, les premières récoltes que le peuple peut recevoir, qu'il conçoit comme une réponse de Dieu à sa prière, comme une grâce de Dieu, les prémices des récoltes, comme une grâce que Dieu accorde. Et aussi espérance, évidemment, que la récolte va être abondante à la fin de l'été. Donc à la fois, oui, reconnaissance et espérance. Reconnaissance et espérance. Fête de Pentecôte qui, curieusement, convoque à la fois l'attendu et l'inattendu. L'attendu, évidemment, pour le peuple hébreu qui est rassemblé pour cette grande fête des moissons. Et n'oublions jamais, et ça c'est une évidence, mais il faut peut-être quelquefois se le rappeler, que les premiers chrétiens sont encore complètement juifs et que pour eux, la fête des moissons a évidemment beaucoup de sens. Et voici, est-ce un hasard que Dieu décide de profiter de ce temps exceptionnel, de ce temps extraordinaire qu'est cette fête de Pentecôte, qui rassemble les Juifs de toutes les nations, pour manifester largement qu'il veut donner son esprit? Quel scénario! Un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit la maison où se trouvent les disciples. Ce qui ressemble à des langues de feu se pose sur chacun des disciples. Et ceux-ci, remplis du Saint-Esprit, se mettent à parler des merveilles de Dieu en des langues qu'ils ne connaissaient pas. Je me permets un petit témoignage. C'est vrai que quand je me suis converti, j'étais dans une église pentecôtiste. Je me suis levé à l'appel du pasteur. Et c'est vrai que quand j'entendais ce passage de ces langues de feu qui descendaient sur les disciples, je me suis dit, ah oui Seigneur, je voudrais être ton esprit qui remplit, qui fait des choses magnifiques. C'est à cela que je m'attendais, à la venue de l'esprit, et pas forcément à la reconnaissance et à l'espérance. Mais revenons justement un peu avant de cet événement, lorsque Jésus était encore présent au milieu de ses disciples. On peut lire en Jean 15, et versets 26 à 27, Jésus avait promis d'envoyer le Consolateur de la part de son Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Ce n'est plus une grande manifestation, ce n'est plus les langues de feu qui descendent, c'est l'Esprit, le Consolateur. Il est là, il vient en douceur, c'est un cadeau, il nous console, il nous donne la reconnaissance, il nous donne l'espérance. L'Esprit rendra témoignage de Jésus et ses disciples aussi rendront témoignage. Le don de l'Esprit peut être perçu comme cela. C'est un don qui nous permet d'être reconnaissants pour tout ce que Dieu a déjà accompli au cœur de nos vies, au cœur de l'histoire humaine. Et évidemment, s'il y a un élément pour lequel nous devons être éminemment reconnaissants, c'est la venue de Jésus-Christ dans nos vies, dans ce monde. Jésus venu nous dire la grâce du Père. Jésus venu nous accompagner. Jésus nous dire que le royaume est à venir. Certes, comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes encore dans le temps de l'enfantement. Encore dans le temps de l'histoire où il y a de la souffrance, où il y a des guerres, où il y a des famines. Mais nous pouvons déjà, grâce au Saint-Esprit, percevoir le royaume à venir. Nous pouvons déjà, grâce au Saint-Esprit, comme nous le dit l'apôtre Paul, être dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Remarquons aussi dans notre passage lu, la réaction des gens pieux présents à Jérusalem est témoin de ces phénomènes. Ils étaient stupéfaits, étonnés, perplexes. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait et se posaient des questions. Cependant, tous pouvaient comprendre ce qui se disait. Parce que l'Esprit permettait aux disciples de s'exprimer dans des langues connues, seulement par les visiteurs étrangers à Jérusalem. Chacun comprenait ce qu'il disait. Et ça me touche profondément, parce que le Saint-Esprit s'est adapté à la population. Cet événement prouve que l'Évangile est destiné à tous les peuples de la terre. Les nations, par l'action du Saint-Esprit, peuvent être rassemblées autour du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cela se réalise un peu plus loin, au chapitre, verset 42 du chapitre 2 des Actes des Apôtres, après le discours de Pierre, puisque 3000 âmes furent baptisées. À la Pentecôte chrétienne, le plan de salut de l'humanité est en mouvement, puisqu'on assiste à la première évangélisation qui donnera plus tard naissance à l'Église. Nous sommes appelés à recevoir l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à être au bénéfice des fruits de cet Esprit. Et quels sont les dons qui nous sont donnés de recevoir? C'est vrai que je me suis vraiment posé, je fais encore un nouveau témoignage, je me suis toujours posé la question de ce que l'Esprit pouvait nous m'apporter. Et puis ce matin, je viens de comprendre, grâce à Marie peut-être, que l'Esprit il nous est donné et se manifeste par la foi qu'on vit d'une façon particulière pour le bien commun. Et ça suffit peut-être. Il n'y a pas besoin de parler en langue, il n'y a pas besoin de faire des miracles. Voilà, c'est cette foi que nous apporte le Seigneur. Je voudrais reprendre le texte qu'a lu Marie ce matin dans l'Épître aux Corinthiens, les versets du chapitre 12 et versets 3 à 13, mais je ne vais pas lire les passages qu'elle a lus, je vais juste vous parler des premiers versets, du verset 1 au verset 6. Les dons de l'Esprit. Parlons maintenant des expériences spirituelles, frères et sœurs. Je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraîné de façon irrésistible vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare, aucun être inspiré par l'Esprit de Dieu ne s'écrit « Maudit soit Jésus !» Et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Pour le bien commun. Comme Comme le dit ce texte de l'Épître aux Corinthiens, il y a toute une série de dons que nous sommes appelés à recevoir. Et j'aimerais énumérer ces dons avec vous en les groupant quelquefois deux par deux. Mais au préalable, peut-être qu'il faut comprendre que quand le texte nous parle du corps du Christ, il nous faut regarder avec une vision universelle. Ce n'est pas uniquement notre petite église, c'est l'église universelle. La fête de Pentecôte, c'est le temps de l'universalité, c'est le temps de l'église universelle. Et donc, quand le texte nous dit que l'église doit recevoir ses dons, doit porter ses dons, c'est à la dimension universelle. Il ne faudrait pas avoir la prétention, je le crois, de croire que toute église locale va réunir tous ses dons en même temps. Sinon, on serait déjà dans le royaume. Mais c'est l'église universelle qui a appelé en unité de corps et d'esprit à mettre en pratique tous ses dons. Le premier don que je veux lier ensemble, c'est la dimension de parole et de connaissance. Pour le dire autrement, en disant que l'église a appelé à être une église qui fait, je dirais, des actions humanitaires et qui fait de la théologie. Une autre manière de le dire, c'est pour Jean Calvin, c'est il y avait un ministère qui était très important, c'était le ministère de docteur. Voilà, les docteurs, ceux qui sont capables de comprendre la parole, de l'étudier, d'en faire l'exégèse. Voilà un don très important, évidemment, au cœur de l'Église, d'avoir cette parole de connaissance, d'être capable de penser, de réfléchir avec beaucoup d'intelligence et d'interpréter la parole qui nous est donnée. D'être capable de faire du bien par, les messages qu'on peut apporter. Et ici, à Darnay, nous avons la chance d'avoir de nombreux intervenants, de nombreux prédicateurs, et je trouve que c'est une richesse. Le deuxième charisme, et je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est évident, c'est la foi. Eh bien, une église sans foi ne serait pas une église, et la foi, évidemment, traverse toutes nos églises. Après, il y a aussi un lieu que j'aime bien rapprocher. L'apôtre Paul parle de ceux qui sont capables de parler en langue et d'interpréter les langues. La première idée, c'est de dire là, on est en pleine dimension charismatique. C'est-à-dire de ceux qui sont capables de parler en langue, c'est-à-dire un langage non cartésien. C'est ce que j'attendais quand je me suis converti. Et puis, il y a ceux qui sont incapables d'interpréter ce langage non cartésien, afin que tout le monde puisse s'en saisir. Mais j'aimerais aller au-delà de cette vision. Pour moi, ce don-là, c'est donner le droit à l'Église à avoir des émotions. C'est donner droit à cette idée que nous ne sommes pas simplement des gens d'une grande intelligence, mais que nous avons besoin aussi que nos émotions soient portées. Et je pense à Michel, quand on venait au groupe d'hommes, qui nous passe de la musique, il vit la musique. Et c'est cette idée de langage. J'aime bien associer par exemple ce langage universel qu'est la musique. La musique, c'est un langage universel qui permet de louer Dieu, et qui permet aussi d'être en communion les uns avec les autres. Quand on chante ensemble, ou quand on écoute un merveilleux morceau de musique. Et j'aime bien associer aussi cette dimension du don de langue, tout ce qui donne droit justement au corps et qui permet à ce que la raison soit laissée de côté. Pour que le corps et les émotions puissent louer Dieu. Quand on lève les mains, c'est le corps, c'est les émotions qui louent Dieu. Il y a aussi un autre duo qui nous est proposé dans 1 Corinthiens 12, c'est le duo prophétie-discernement. Nous avons besoin dans l'Église de gens qui soient capables de discerner ce qui est juste de ce qui n'est pas juste dans notre monde. Ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans nos églises. Donc à la fois parole de discernement, parole de prophétie. Puisque les prophètes, avant d'être ceux qui sont capables de voir le monde à venir, les prophètes sont ceux qui sont capables justement de dire au peuple de Dieu, et quelquefois même de dire à la société, que ce qu'on est en train de vivre ensemble n'est pas juste au nom de la parole de Dieu. Voilà donc ce à quoi nous appelle ce texte de 1 Corinthiens 12. C'est à la fois une unité, l'Esprit Saint, nous appelle une unité, mais une unité dans la diversité. Comme on le voit effectivement, comme ça a été dit ce matin dans Corinthiens. Le Saint-Esprit comme un médiateur, mais aussi le Saint-Esprit comme un interprète qui permet que nous puissions interpréter, comprendre ce que l'autre est en train de nous dire. Et puis c'est l'évangile de Jean qui nous le dit, que le Saint-Esprit c'est aussi celui qui interprète nos prières, nos émotions, notre intelligence auprès du Père, afin que le Père puisse nous donner sa grâce et sa bénédiction. Si l'on étudie la façon dont Jean, Luc et Paul parlent de l'Esprit Saint, nous pouvons constater que cela correspond à trois périodes de l'histoire du Nouveau Testament. Jean parle du ministère de Jésus et de son enseignement. L'Esprit Saint est la promesse d'une présence privilégiée de Dieu après le départ de Christ. L'Esprit est intimement lié à la personne de Jésus le Christ. Luc, dans l'acte des apôtres, parle de vie et de la mission de la première Église. L'Esprit Saint est celui qui envoie en mission. Paul, dans ses lettres, invite les Églises à vivre dans l'Esprit, qui construit leur unité et fortifie leur amour. L'Esprit leur permet de garder la foi dans un milieu hostile, sans tomber dans le légalisme. Il leur donne l'espérance. Aujourd'hui encore, l'Esprit est celui qui nous dit l'Évangile du Père et du Fils. Il est celui qui nous envoie en mission pour que nous soyons témoins de cet Évangile. Il nous accompagne tout au long de notre vie pour que nous vivions notre foi dans l'espérance, la paix, la reconnaissance. Amen.